VCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique va faire un bilan du CCAS.
Oui, vous avez aimé le bilan du service logement. Eh bien, vous allez en avoir un aujourd'hui sur le Centre communal d'action sociale de Chaville.
Sera suivi de Clément qui va nous parler de galettes.
Oui, eh ben, on va essayer d'éviter toutes les polémiques entre les crêpes et les galettes.
Et on terminera l'émission avec Jean Barbard qui va nous faire tourner la Terre.
Bonjour à tous, aujourd'hui on quitte la stratosphère pour rejoindre l'orbite basse où les très nombreux satellites rejouent les meilleures heures des bouchons du périph.
Tout de suite, dossier du quotidien avec Monique.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Monique, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le CCAS et comment il fonctionne ?
Oui, alors je voudrais d'abord rappeler que les CCAS ont été créés par la loi du 6 janvier 1986 dans toute commune de 1500 habitants et plus. Le CCAS, c'est un établissement public administratif communal, distinct de la commune. Il a donc un budget propre, constitué largement par la subvention communale, et un conseil d'administration dont le président de droit est le maire. Le conseil d'administration est composé à part égale de 8 membres élus par le conseil municipal, de 8 membres nommés par le maire, donc ça fait 16 membres plus le président. Parmi les membres nommés, il doit y avoir obligatoirement des représentants des personnes retraitées, des personnes en situation de handicap, des personnes bénéficiant d'une mesure de protection et des associations intervenant dans le cadre de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Les principales sources de financement du CCAS, donc une dotation de la commune pour près de 293 000 euros, une subvention de la CAF pour 24 600 euros pour le financement du poste de référent handicap et les redevances des usagers pour les logements temporaires. 64% des dépenses de fonctionnement sont des dépenses de personnel.
Quelles sont les missions du CCAS ?
Elles sont de deux ordres. Les missions obligatoires, apporter aux habitants de la commune une aide pour l'instruction des dossiers de demande d'aide sociale et de domiciliation des personnes sans domicile fixe. À noter que 47 personnes ont été domiciliées sur la commune en décembre 2024. Il y en avait 38 en 2023. Il y a une forte augmentation des personnes sans domicile fixe. Et les missions facultatives, les autres, sont laissées au libre choix des communes. Ce sont les coupons de réduction pour les activités culturelles ou sportives selon les ressources des familles, les dispositifs de logement passerelle pour des accueils d'urgence, le cours de français langues étrangères, par exemple. Le CCAS, il est au premier étage des créneaux. 5 agents y travaillent. Il est ouvert tous les jours selon des horaires différents dans la semaine. En 2024, 6202 personnes ont été accueillies, dont 51%, 3163 en physique et les autres par téléphone. Les motifs de visite montrent entre autres une augmentation de 16% des demandes d'aide financière et une croissance de 10% des demandes de domiciliation par rapport à l'année précédente.
Quels enseignements peut-on retenir de ce bilan d'activité, Monique ?
Le rapport est très riche, très complet en informations et donc je n'en dirai que quelques mots. Pour le pôle handicap, accueil, accompagnement, démarche auprès de la MDPH du 92, action de sensibilisation locale, on note pour 2024 1644 personnes qui ont au moins un droit ouvert, 405 sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, 76 enfants sont bénéficiaires de l'allocation de l'enfant handicapé, 1163 personnes, enfants et adultes, sont bénéficiaires d'autres droits que ceux cités. Pour le pôle social, où le travailleur social joue un rôle clé dans l'accompagnement des publics en situation de précarité ou de vulnérabilité, dans un contexte économique marqué par l'inflation et une hausse nationale de la précarité et de la pauvreté, les situations d'urgence sociale se sont multipliées. Personnes à la rue ou en grande difficulté de logement sur 208 demandes d'entretien. 96 l'ont été pour des secours financiers et 85 pour des aides alimentaires. Parmi les personnes accompagnées par le CCAS, 75% sont des femmes. Cette surreprésentation s'explique par les situations de monoparentalité, de violence conjugale ou encore de précarité liée à des parcours professionnels discontinus. Ces situations difficiles, on les mesure également dans le cadre du Fonds d'aide chavillois qui se réunit tous les mois et qui est un dispositif local. Le montant des aides accordées en 2024 a atteint 46 418 euros contre 28 000 ou 29 000 les deux années précédentes. Une augmentation de 58,62% et 50% de dossiers étudiés en plus. Les aides les plus sollicitées par les Chavillois en difficulté concernent majoritairement les factures d'énergie, 33% des demandes, et les dettes de loyer, 12%. Ces difficultés sont confirmées également par les associations Secours Populaire et Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Secours Catholique, qui proposent des aides alimentaires et qui sont soumises à des demandes de plus en plus nombreuses, ou encore aux vestiaires, ou encore des demandes de journées de vacances, des repas, jardins partagés, aides au mobilier. À noter, au mois de novembre, la braderie solidaire qui aura lieu et qui permettra d'aider un certain nombre de familles.
Merci beaucoup Monique Couteau pour ce bilan. N'oubliez pas que vous avez l'accueil du CCAS. Je rappelle les horaires le lundi et mercredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h et vendredi jusqu'à 16h et les mardis de 13h30 à 17h et les jeudis de 8h30 à midi. Le téléphone 01 41 15 40 87. Merci, on passe tout de suite à la chronique à table. À table avec Clément Chassin.
Bonjour, la semaine dernière j'avais parlé de pain, cette semaine je parle de galettes, est-ce que je serais pas en train de virer monomaniaque? c'est surtout que la semaine dernière, pour une fois, j'avais pas donné de recette simple, rapide, voilà, et ben là je vais me rattraper. Alors, j'ai dit, je vais parler de galettes, j'aurais pu dire de crêpes, de galettes, de durum, de pita, de soca, de rouleaux de printemps, de tacos, ou même d'une bonne vieille tartine de pain. Tout ce sur quoi on peut tartiner ou dans lequel on peut mettre des légumes, de la salade. Pas trop de gras tant qu'à faire, on se calme sur les sauces. Un bon houmous ou un petit fromage frais, ça fait très bien l'affaire. Et finalement, on a quelque chose qui tient au corps et qui est assez équilibré, si on se calme sur les sauces. Donc il faut en profiter. En ce moment, on trouve encore des tomates. Profitons-en tant qu'on en a. Voilà. Et même en hiver, il ne faut pas hésiter, avec des carottes râpées, du navet râpé, des légumes râpés, enfin voilà, on peut se faire une petite galette sympa. Et honnêtement, le soir, quand on a une grosse flemme, une tartine de pain, un bout de fromage, une bonne salade, ça fait un repas équilibré.
Alors, tu nous as amené des galettes, on a des galettes là que tu nous as préparées, c'est ça?
Ouais.
Qu'on va goûter et que je goûte.
C'est très radiophonique. Voilà. Alors, effectivement, alors, dans tout ce que j'ai cité, il y avait des galettes à base de blé, les crêpes, la pita, de maïs, les tacos, à base de riz, les rouleaux de printemps, à base de sarrasin, la galette.
Mm-hmm. Alors, j'arrive pas à deviner.
Et là, est-ce que tu devines base de...
À base d'huile.
À base de pois chiches, effectivement. Là, aujourd'hui, je vous ai fait une spécialité niçoise.
Ah, c'est du pois chiche ?
C'est du pois chiche.
Ah, d'accord.
C'est de la soca. C'est donc une spécialité niçoise à base de pois chiche. Ouais, c'est des galettes un peu épaisses. Normalement, ça se mange tiède et croustillant juste quand elles sortent du four à bois.
Ouais.
Voilà, parce que normalement, ça se fait avec un four à bois. Bon, là, je les ai faites à la poêle.
Alors, c'est quoi, soca ? C'est une variété de pois chiche ?
Non, la soca, c'est le nom de cette galette.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, je vais donner la recette, tant qu'à faire.
Donc, c'est niçois.
C'est rapide. Donc, vous mélangez 250 g de farine de pois chiche avec 1 demi-litre d'eau. Il faut bien mélanger. Après, tu ajoutes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel et un peu de poivre. Moi, j'aime bien quand elles sont bien poivrées. Voilà, il faut bien mélanger pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et après, une louche dans la poêle, dans une poêle bien chaude et huilée. 3 minutes de chaque côté, okay. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et t'as une petite galette, voilà, tu mets ça avec, t'accompagnes ça avec une petite salade de tomates, un petit rosé de Provence, avec modération,
bien
et voilà,
sûr.
T'as la Méditerranée dans ton assiette.
Qu'est-ce qu'on peut mettre encore, là tu nous fais un sandwich, si on doit le transformer en une espèce de tacos, si je peux me permettre, qu'est-ce qu'on met dedans?
Ouais, alors la soca, c'est pas trop pour mettre dedans, c'est plus à côté.
Ça se mange vraiment comme
ça
du pain.
Ça se mange à côté, ouais, ça se casse un petit
oui,
peu.
Ah oui, d'accord,
voilà.
Ok.
Mais voilà, ça permet de faire un petit repas, ça change, avec une petite salade, tu mets ça à côté, c'est assez nourrissant quand même, parce qu'on a quand même du pois chiche. Et voilà, et c'est nourrissant, c'est facile à faire, c'est vraiment très, très rapide à faire, et ça coûte pas très cher, puisque c'est de la farine de pois chiche,
tout
à fait.
Voilà. Merci beaucoup Clément. On passe enfin à l'émission Jean Barbare qui nous fait, je le rappelle, tourner la Terre.
«
De tout et de rien avec Jean Barbare.
Et si le Gaulois avait finalement raison en disant que le ciel finirait par nous tomber sur la tête ? Alors oubliez Toutatis et Belenos, ici Dieu s'appelle Starlink. Et oui, ah. Elon Musk dispose aujourd'hui d'une armada de 7600 satellites qui représentent près de 65% de l'activité orbitale. À force de tirer des constellations comme d'autres tirent des feux d'artifice, notre ciel bascule en mode périph aux heures de pointe. Alors parlons-en. La question qui tue, c'est comment fait Elon Musk pour nous énerver autant ? Aujourd'hui, notre ciel dispose de 12 000 satellites actifs, dont une écrasante majorité sont en orbite basse, soit dans les 2 000 km au-dessus du niveau de la mer. Dans cette zone, les frictions explosent. On parle de 11 millions de conjonctions, c'est-à-dire quand deux satellites passent à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, et de 300 000 manœuvres d'évitement par an. Alors si Starlink permet l'accès à Internet partout dans le monde, et notamment à des écoles dans des lieux reculés, les conséquences de l'industrie ne sont pas neutres. Les coûts cachés sont immenses, chaque évitement provoque une consommation de carburant et réduit la durée de vie du satellite. Il y a également un quasi-monopole du risque dans certaines altitudes, parce qu'un acteur privé pèse plus lourd que des dizaines d'agences nationales réunies. Les externalités au sol, astronomie polluée par les traînées lumineuses, aérosols métalliques de rentrée, qui sont également à surveiller. Alors selon l'Agence spatiale européenne, des satellites intacts ou des corps de fusée rentrent dans l'atmosphère plus de 3 fois par jour en moyenne, tandis que l'astronome Jonathan McDowell témoigne qu'en 2025, 1 à 2 Starlink retombent chaque jour sur Terre. Avec l'augmentation du nombre de satellites, ces chiffres ne peuvent qu'accroître, d'autant que l'information n'est pas des moindres. Certains satellites échappent à la maîtrise et touchent parfois le sol. Alors le sujet préoccupe et les régulateurs se réveillent. Aux États-Unis, la FAA, pour Administration fédérale de l'aviation, planche sur des règles pour que les orbites supérieures ne deviennent pas des ferrailles éternelles. L'idée est d'imposer une vraie fin de vie, désorbitation, cimetière, etc. Des ONG plaident même pour aller plus loin, mais l'affaire reste à suivre. Alors et nous, à Chaville, on fait quoi ? Pour y répondre aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marilyn Lanaspez et également Loïc Rossi, astrophysicien, qui a animé l'événement le jour la nuit à Chaville.
À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Bonjour. Donc, j'ai participé à une balade nocturne récemment dans les rues du quartier du Petit Viroflay, qui s'est terminée par une animation du club d'astronomie de Chaville. C'était à l'occasion de la fête du jour de la nuit, la 4e édition à Chaville, et la 17e au plan national. C'est un événement de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne notamment. Donc je passe la déambulation pour parler effectivement avec Loïc de cette présentation virtuelle du ciel, puisque la météo n'était pas avec nous et une chape de nuages en fait nous empêchait de faire des observations en direct. Donc Loïc Rossi, qui est un jeune planétologue astrophysicien de Chaville,
jeune mais expérimenté,
voilà, membre du club d'astronomie de Chaville. Il va nous parler notamment du club, mais aussi de ce qu'il connaît, des étoiles, de tous les objets célestes et des fameux satellites que j'ai appris. En fait, j'ai fait la connaissance de ces petits objets.
Bonjour, merci Marilyn, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, la question de... Alors déjà, le jour de la nuit, c'est un peu un problème qu'on a eu, une situation récurrente à Chaville quand on organise le jour de la nuit, c'est que malheureusement, il fait moche. Donc ça fait plusieurs fois, hélas, qu'on doit faire la version... le jour de la nuit, on doit faire une animation en intérieur. Heureusement, il y a des outils qui permettent de visualiser le ciel, des sortes de logiciels de planétarium, de cartographie du ciel, et qui donc permettent de simuler un peu le ciel qu'on aurait vu. Et c'est vrai que dans cet événement, on a pu parler du ciel nocturne, de ce qui était à voir, mais on a aussi pu parler de la pollution lumineuse.
La pizza.
Voilà, avec des métaphores effectivement alimentaires aussi, voilà. Mais oui, et l'objet du jour de la nuit, c'est de parler de pollution lumineuse. Alors, on a évidemment parlé de la pollution lumineuse liée à l'éclairage public, avec tous les enjeux qui vont derrière, et notamment le fait qu'à Chaville, il y a eu depuis quelques années maintenant une extinction la nuit, ce qui permet à Chaville d'ailleurs d'avoir obtenu un label de ville étoilée, une première étoile depuis très récemment, ça fait, à l'heure où on parle, ça fait quelques jours que ça a été publié, et c'est la seule ville des Hauts-de-Seine.
C'est décerné par qui ?
Par l'Association Nationale de Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, l'ANPCEN. Voilà.
Okay.
Et donc là, c'est la Seule ville, enfin c'est les villes qui candidatent, et Chaville est la seule ville des Hauts-de-Seine à avoir obtenu ce label, donc justement par rapport à ces efforts faits sur l'extinction nocturne entre 1h et 5h. Donc on a pu parler de ces questions de pollution lumineuse depuis le sol, mais c'est vrai que depuis quelques années, et c'est là où on revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure, maintenant il y a une problématique de pollution lumineuse qui vient par le dessus, pas uniquement qui vient du sol, mais aussi qui vient de l'espace, puisqu'il y a tous ces satellites, ces constellations de satellites qui créent un problème de pollution lumineuse venue du ciel. Alors, dans le ciel nocturne, si vous prenez le temps d'aller observer le ciel à Chaville, hein, si la météo vous le permet, évidemment, il y a quand même quelques endroits à Chaville qui permettent d'avoir un ciel à peu près sombre, ou du moins pas trop exposé à la pollution lumineuse. Nous, au club, on va régulièrement observer dans le parc de la Maradan, au-dessus de l'Acrobranche, où il y a une sorte de petite clairière tout en haut, où certes l'horizon est un peu bouché, mais au moins on est loin des réverbères et de la lumière, donc c'est un relativement bon point d'observation. Donc si vous vous mettez par exemple là, ou dans votre jardin, si vous avez un peu si vous avez la chance d'en avoir un, vous pouvez observer et vous rendre compte que, outre les étoiles et les avions qu'on peut voir passer, ou les planètes, de temps en temps, vous pouvez voir des petits points lumineux qui passent dans le ciel. Et en général, si ça clignote pas et que ça se déplace relativement vite, c'est probablement un satellite. Et donc, c'est des choses, de plus en plus de satellites artificiels qu'on peut voir. Il y en a qui sont très spectaculaires, comme l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais il y en a des plus simples, comme tous ces satellites Starlink. Alors, ça pose pas mal de problèmes, outre la curiosité de les voir passer à l'œil nu, ça pose des problèmes pour l'observation. Parce que si vous faites de la photo, par exemple, ça laisse des traces, ça laisse des traînées lumineuses dans le ciel, dans les images, parce que vous faites des temps de
pause. Ah oui, des temps longs. Ouais.
Voilà, vous prenez le temps de faire des pauses longues. Mais évidemment, ça gêne aussi les scientifiques, puisque ça vient perturber les données scientifiques qui sont acquises pour étudier les objets célestes, pour faire de l'observation astronomique. Donc c'est un vrai enjeu. Vous pouvez trouver sur le net, si vous cherchez photos, astrophotos, Starlink ou je sais pas quoi, vous pouvez très facilement trouver des images avec plein de traînées par-dessus, donc ça devient un problème assez récurrent. Et ça soulève quand même pas mal de questions sur un peu cette dégradation du ciel et donc cette nouvelle forme de pollution lumineuse qui prend des proportions assez importantes et qui va pas aller en s'améliorant vu le rythme des lancements de ce genre de constellations.
Je sais pas si c'est tout à fait le même sujet, mais on a parlé de volonté de privatisation de l'espace.
Oui, là aussi c'est un point important parce que, comme je l'expliquais justement durant la soirée au jour de la nuit, la préservation du ciel et de l'environnement nocturne, c'est évidemment les enjeux de biodiversité, de préservation des espèces nocturnes, pour l'immigration, pour la reproduction des espèces, aussi pour la santé humaine. Mais il y a aussi l'enjeu d'astronomie. Alors évidemment, les astronomes, quand il y a de la pollution lumineuse, ça nous empêche de regarder le ciel. Bon, c'est dommage, mais on pourrait se dire que c'est une lubie d'astronome. Mais il y a quand même un enjeu culturel aussi derrière le ciel. C'est-à-dire que le ciel, il y a toutes sortes de mythes et de légendes, de la mythologie, des mythes créateurs, de divinités qui sont associés au ciel. Et donc, ça fait partie d'un bien culturel commun. Et il y a un enjeu d'inégalité d'accès au ciel. C'est-à-dire que si vous grandissez dans un quartier dans des HLM près de la pollution lumineuse et que vous n'avez pas les moyens de partir en vacances, vous ne savez pas à quoi ressemble le vrai ciel nocturne. Alors que si vous êtes un peu plus aisé, que vous avez un jardin ou que vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, du coup, là, vous savez à quoi ça ressemble. Donc là aussi, d'un point de vue culturel, il y a un enjeu et c'est cette augmentation des satellites dans le ciel contribue finalement à dégrader un peu plus ce patrimoine commun de l'humanité. Et donc, il y a aussi des enjeux importants là-dessus, clairement.
Alors, j'ai entendu aussi parler de réserve du ciel. Enfin, je ne sais plus si c'est exactement ce terme-là.
Oui, effectivement, il y a des associations, notamment Dark Sky International, mais aussi Dark Sky France, qui ont mis en place des labels de réserve de ciel étoilé. Et donc, en fait, il y a des zones en France et un peu partout dans le monde où qui peuvent obtenir un label permettant d'indiquer une qualité de ciel particulière et donc de créer une réserve, puis des zones tampons et donc de donner des endroits où le ciel est préservé. Alors ça, évidemment, ça marche pour la pollution lumineuse au sol, ça préserve pas de la pollution des satellites, ça c'est sûr. Mais c'est des lieux où, en gros, il y a une qualité de ciel et l'objectif de ces classements en réserve, c'est de les préserver davantage encore pour s'assurer qu'ils ne soient pas davantage dégradés. Et en France, on a 7 réserves RIS, RICE. Sauf erreur de ma part, on en a 7 en France qui sont labellisées comme ça. Et encore un peu plus partout dans le monde. Donc voilà, c'est le genre de choses dont on peut être assez content en France. Mais...
Super, merci Marilyn, merci Loïc. Pour conclure, bah aujourd'hui on aimerait que le ciel continue à appartenir à tout le monde, que ça ne devienne pas une autoroute privée, que ça reste un bien commun, qu'on puisse continuer à regarder les étoiles filantes sans risquer d'en prendre une sur le nez, et surtout on considère que la prochaine frontière, c'est pas Mars, mais sa gouvernance.
Merci beaucoup, merci Jean-Barbare, merci à nos deux camarades Marilyn Anaspez et Loïc Rossi. C'était Radio VCE, on se retrouve lundi prochain, 8h, à bientôt.